9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Et voilà Daniel Cohen. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes économiste, président de l'école d'économie de Paris et vous publiez Homo Numericus, la civilisation qui vient chez Albin Michel. La révolution numérique, est-ce que c'est une révolution industrielle de plus ?
C'est une révolution industrielle de plus, absolument. Elle fait suite à la révolution du charbon au 19e siècle, de l'électricité au 20e. Et comme les révolutions industrielles du passé, elle cherche au fond à quoi faire, à rendre les gens plus productifs. La différence, c'est que au 19e et au 20e, ce qu'on cherchait à rendre plus productif, c'était le travail de l'homme sur la matière. Dans les grandes usines Ford du début du 20e siècle, on cherchait à réduire le temps nécessaire à fabriquer les voitures. La nouveauté, c'est que cette fois-ci, ce qu'on cherche à réduire, c'est le temps de l'interaction entre les humains eux-mêmes. C'est en ça que c'est une révolution industrielle comme les autres, mais tout à fait différente dans ses effets, on va dire, anthropologiques.
Hier, avec le travail à la chaîne, écrivez-vous, l'homme devenait une machine. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est la machine qui devient humaine.
Oui, c'est ça le renversement total qui est en train de se produire. Au fond, ce dont il s'agit, c'est très simple, c'est de faire que dans toutes les situations ou dans une société de services comme la nôtre, on rencontre quelqu'un pour être soigné, pour être éduqué, un coach sportif, tout ce que vous voudrez. Dans cette interaction, il y a deux humains qui doivent se déplacer pour se rencontrer et le prestataire est en face du client pour pratiquer son art. Ben, c'est très coûteux et donc on va chercher à dissocier tout ça en essayant dans toute la mesure du possible de substituer l'un des deux, le prestataire, par un algorithme. Donc vous allez être soigné par un algorithme, vous allez dans la mesure du possible aussi, si vous devez rencontrer un médecin, le faire à distance et le télétravail est la forme emblématique de ce qui se cherche dans ce nouveau capitalisme numérique.
Hier, avec le travail à la chaîne, l'homme devenait une machine, mais l'homme peut tout de même, encore aujourd'hui, devenir une machine. Hein. Un homme augmenté, il l'est déjà, d'une certaine manière, avec son smartphone.
Alors, on est fait déjà, en réalité, avec le smartphone, en train de réaliser une synthèse entre le silicone et le biologique. On a beaucoup de mal, enfin moi le premier, à penser sans avoir tout de suite la tentation d'aller chercher sur le smartphone l'information qui vient. Donc oui, on est non seulement face à des algorithmes, mais nous-mêmes, y compris comme consommateurs, nous algorithmisons, c'est-à-dire que nous avons besoin de ce renfort de la machine pour penser plus vite, mieux, ce qu'on voudra, mais en tout cas pour penser autrement.
Mais justement, est-ce que Homo Numericus sera plus intelligent que ses ancêtres ?
Alors, il sera plus intelligent au sens où il pourra gérer une quantité infernale de données. Enfin, on a, encore une fois, dans nos smartphones, des capacités de brassage de l'information qui excèdent un facteur, je ne sais pas lequel, je vais dire 10 ou 100, celle de Cap Canaveral quand ils envoyaient les hommes sur la Lune.
Donc, et en matière de statistiques, on dispose de statistiques, de calculs statistiques, que seuls les États, autrefois, et les entreprises les plus grandes pouvaient s'offrir.
Exactement. Donc on a une machine à calculer qui est absolument extraordinaire. Le problème, c'est qu'on le voit quand on va fréquenter les réseaux sociaux, ça se fait beaucoup au détriment de l'intelligence au sens ordinaire du terme. C'est-à-dire que la capacité simple d'avoir une discussion philosophique sur les réseaux sociaux, et on sait que l'intelligence, elle est toujours au contact d'autrui. On n'est pas des savants fous en train de remplir des équations. Nous nous hissons au-dessus de nous-mêmes, comme je le fais avec vous ce matin, Frédéric, en parlant, c'est-à-dire en échangeant, en essayant d'atteindre l'universel d'une pensée. C'est impossible sur les réseaux sociaux.
Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. On est tous focalisés sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est souvent du niveau de graffiti qu'on laissait autrefois dans les WC des cafés. Il y a des endroits où on peut discuter sur Internet.
Alors, on peut discuter sur Internet, mais entre soi, ça c'est la première chose. C'est-à-dire qu'effectivement, si je suis dans une communauté de savants qui parlent le même langage et avec des gens qu'en général j'ai déjà rencontrés, bien sûr, on peut produire de l'intelligence artificielle. Mais si vous entrez en voulant que votre parole soit entendue sans connaître le destinateur, vous tombez très vite dans le piège qui est au cœur, je pense, des dérèglements de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui contamine, je crois, aussi beaucoup la vie politique, la vie démocratique. C'est que pour être entendu, il faut parler plus fort que l'autre, il faut parler très fort, il faut aller à l'innommable. Et ça, évidemment, ça n'est pas comme ça qu'on construit une agora politique. Ça n'est pas en cherchant à crier plus fort que votre adversaire que vous allez réussir à élever l'intelligence globale de l'humanité.
Dans ce livre, Daniel Cohen, ce qui vous intéresse, c'est la civilisation qui vient. Hein. Alors, qu'est-ce que la révolution numérique a changé à la société de consommation, par exemple, telle que nous la connaissons ?
Alors, elle change d'abord une première chose, c'est que son but ultime, c'est de tout faire entrer en ligne, dans le net. C'est-à-dire ce que L'idéal type que je recherche, la société numérique, c'est une société de consommation où vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous et tout est à votre disposition en quantité infinie, les chansons, les films, la médecine, le travail lui-même, à condition que ça se passe en ligne. Donc c'est un travail extraordinaire de dématérialisation. Et quand l'humain est nécessaire, quand même, je pense là pour le coup à des algorithmes comme Tinder, on va réduire au maximum le temps qui est nécessaire pour rencontrer un partenaire, mais le temps avec le partenaire lui-même est réduit à la portion congrue.
Ça dépend des partenaires.
Ça dépend des partenaires.
Je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas Tinder, vous faites allusion à une application de rencontre.
Une application de rencontre. Donc, encore une fois, c'est toute l'ambivalence de la révolution numérique. En première intention, c'est bien, c'est intéressant. Ça permet de rencontrer des gens qui ne sont pas dans le cadre étroit de votre vie sociale. Le problème, c'est que ça devient très vite, malheureusement, comme le travail à la chaîne, c'est-à-dire que la recherche qualitative de rencontres nouvelles devient très vite une recherche quantitative, c'est-à-dire qu'on veut le maximum de partenaires, qui est la promesse aussi de Tinder, et donc la personne que vous rencontrez n'est pas une personne avec laquelle vous envisagez de faire votre vie, même si c'est possible aussi, mais c'est une série dans un nombre aussi grand que possible de rencontres possibles, et la personne que vous rencontrez n'est plus une personne en réalité quand vous basculez dans ce versant-là de la vie sur Internet.
Mais on pouvait dire ça aussi des boîtes de nuit. Hein.
On pouvait dire ça des boîtes de nuit, mais il y avait quand même une contrainte, c'était de se rencontrer tout de suite en face à face, dans un groupe social, vous vous déplaciez, et on ne pouvait pas faire du travail à la chaîne dans les boîtes de nuit qu'on peut faire maintenant avec Tinder. Et il y avait toujours quand même un moment je crois, enfin vous connaissez mieux les boîte de nuit que moi, mais je crois qu'il fallait quand même faire la cour à la personne. Il fallait
mais
la séduire.
Il paraît que sur Tinder aussi.
Je crois que sur Tinder, la cour, c'est l'envoi algorithmique que vous avez envoyé sur votre personnalité, sur votre visage, sur vos différentes caractéristiques. Et encore une fois, tout est fait pour que ça aille très vite et que vous puissiez passer d'une personne à une autre aussi vite. Encore une fois, je ne veux pas faire le vieux con qui explique que c'était mieux avant, etc. Je pense que c'est une promesse extraordinaire de pouvoir faire en sorte que la sexualité, la recherche d'un partenaire, que ce soit...
De multiplier les rencontres.
Voilà, aussi. Multiplier les rencontres, ça ne me gêne pas du tout que cet instrument permette de le faire, encore une fois, en sortant du cadre où on vit. Le problème, c'est que la promesse, c'est la multiplication, c'est le passage du qualitatif au quantitatif, c'est l'équivalent moderne du travail à la chaîne dans les relations
la promesse,
avec les gens.
La promesse, c'est l'abondance, au fond. Le président de la République a parlé de la fin de l'abondance. Pourtant, c'est ce que la révolution numérique nous promet, l'abondance, la gratuité, au fond, le retour à la société nomade des chasseurs-cueilleurs.
Il y a quelque chose de cette nature, en effet, je fais dans le livre un parallèle, c'est-à-dire cette idée qu'on n'est plus fixé sur un territoire, qu'on peut partir au gré de la vie et des rencontres et des découvertes. Le seul problème qu'on découvre, c'est que, en réalité, cette vie nomade, sans attache, elle est profondément anxiogène. L'anomie sociale, qui est le fait que vous vous retrouviez seul, que vous n'arriviez pas à trouver une place, n'est pas guérie par Internet. Elle est augmentée puisque, encore une fois, les associations, les rencontres que vous faites, elles sont surtout des rencontres qui se font par exclusion de la vie réelle. C'est des rencontres qui sont faites pour vous maintenir, en fait, dans un rapport d'addiction à l'algorithme que vous utilisez. Donc, il n'y a pas ce plaisir, cette satisfaction de la rencontre au sens large. Il y a cette multiplication, en effet, encore une fois... Plutôt de l'ordre du quantitatif que de l'ordre du qualitatif.
La révolution numérique, pour l'instant, n'est pas génératrice de croissance. Elle détruit beaucoup plus d'emplois qu'elle n'a l'air d'en créer. Mais elle fabrique du temps libre, elle fabrique des croyances, elle fabrique de la surveillance, elle fabrique des tribus aussi. Il est devenu beaucoup plus facile de se distinguer, de s'isoler qu'autrefois. On n'est plus obligé de vivre tous ensemble.
Voilà, mais le point, encore une fois, c'est que vous êtes... quand vous allez rejoindre sur Internet... un groupe, en fait, vous n'êtes pas à la recherche d'une communauté large, vous êtes à la recherche d'un groupe qui, au fond, d'une certaine manière, pense exactement comme vous. Donc, en réalité, la rencontre, qui est la recherche de l'altérité en général, elle est impossible sur Internet. Quand l'usage concret que vous faites quand vous allez chercher une information sur Internet, c'est jamais une information neutre et objective, c'est presque toujours et systématiquement la confirmation des préjugés que vous avez. Si vous pensez que la guerre en Ukraine a été déclenchée par le groupe Engie pour bénéficier de la hausse du prix du gaz, vous allez trouver un million de personnes qui pensent comme vous. Et donc vous allez vous retrouver assemblés dans une espèce de ghetto numérique avec, en effet, une tribu, un clan, qui va être en réalité soudé par la détestation des idées contraires et où vous n'avez pas accès à autrui en tant qu'il va pouvoir, dans cette discussion philosophique auquel je fais allusion, vous n'allez pas avoir de contradiction possible.
Vous dites « Internet fabrique un monde selon nos désirs ». Dans ce sens-là, c'est assez juste. Mais en même temps, la civilisation qui vient, c'est une civilisation qui peut disparaître et qui en a conscience et qui en a peur. Est-ce qu'il y a eu des précédents ?
Alors, aucune civilisation connue, il y a des contre-exemples de petites îles, etc., n'a renoncé à la tentation d'aller au bout de ses possibilités. Les grands empires se sont effondrés. Il y avait une formule célèbre dans les années 80 d'un grand historien qui s'appelait Paul Kennedy, il appelait ça l'impérial overstretch, c'est-à-dire on va jusqu'au bout de ce qu'on sait faire. De même, il y a un ethnologue, sociologue, je ne sais pas comment le caractériser, qui s'appelle Georges Bataille, qui a écrit un livre qui s'appelle La part maudite. Et qui
on peut
dit,
dire un écrivain pour
un écrivain
Bataille.
Pour aller très vite, voilà, exactement. Un vrai, voilà, très bien, parfait. Qui a écrit sur l'érotisme, il a écrit des choses tout à fait admirables, mais là, dans La part maudite, il fait un livre d'économie, en tout cas, c'est comme ça qu'il le décrit, c'est comme ça que je l'ai lu, où il explique qu'on va toujours au bout de ce qu'on sait faire. Alors, ce n'est pas toujours de l'économie au sens, nous, fabriquer du PIB. Du PIB, par exemple, il dit, voilà, au Tibet, aller au bout de ses possibilités, c'est avoir le plus grand nombre de sages qui vont étudier et toute la société est prête à s'épuiser pour avoir le plus grand nombre de moines tibétains qui vont atteindre la sagesse. Au fond, dans la religion juive aussi, il y a quelque chose comme ça. On travaille pour permettre au plus grand nombre d'étudiants en yeshiva de connaître le Talmud. Donc, on va au bout de possibilités dans une direction qui, d'une société à l'autre, peut être complètement différente. Mais on va au bout de ce qu'on sait faire, on ne sait pas se retenir collectivement parce qu'il y va de notre identité collective. C'est ce que nous sommes, il faut aller au bout de nos possibilités. Je crois qu'Internet nous entraîne absolument au bout de nos possibilités technologiques, même si on doit en sortir essoré, épuisé et au fond déshumanisé.
Homo numericus, la civilisation qui vient, c'est le titre de votre nouveau livre, hein, Daniel Cohen, ça vient de paraître chez Albin Michel. Merci d'être passé par cette émission, on se retrouve juste après une pause avec Gilbert Thiel, on va parler des acquittés.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.